Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Le peuple Bavira ou Vira est une des nombreuses tribus de la RDC. Il est situé dans les territoires d'Uvira, à l'est du pays, sur la rive nord-est du lac Tanganyika et à la frontière avec le Burundi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le magazine Identité culturelle de ce jour fait un gros plan sur la culture du peuple Bavira. Nous nous rendrons justement à Uvira, dans le sud Kivu, avec Fiston Ngoma Mayabala pour cette balade culturelle. Nous recevons également comme invité depuis le Canada.
Bonjour Monsieur Augustin Ramazani.
Bonjour, oui. Ça va bien, oui.
Ça va bien, et vous?
Très bien.
Vous êtes Congolais et vous résidez au Canada.
Je suis très heureux de discuter avec vous au sujet de mon livre.
Il a été joint au téléphone par Hervé Vaucard. Il est de la communauté Bavira, auteur de plusieurs ouvrages et vient de publier un ouvrage sur les Bavira du Sud Kivu. Bienvenue à ce magazine qui vous plonge dans le monde de la culture.
Kashufuli kuyaja mitavi mlemo wa kuwele. C'est un proverbe qui dit que la liane étend ses branches grâce au tuteur. Parce que vous voyez, la liane ne peut pas se lever si cette liane n'a pas de tuteur.
Le peuple Vira est venu du Tchad en passant par la forêt équatoriale avant de débarquer au nord du lac Tanganyika. Il constitue aujourd'hui la chefferie de Bavira. Carte postale avec Fiston Ngoma Mayabala.
Avec près de 1000 km², la collectivité chefferie de Bavira fait partie des trois chefferies créées depuis l'époque belge en territoire d'Uvira. Elle est limitée au sud par les territoires de Fizi avec la rivière Makobola, au nord par la chefferie de Bafuliru et la chefferie de la plaine de la Ruzizi avec la rivière Kawizi, à l'est par le lac Tanganyika qui fait frontière avec le Burundi, et à l'ouest par le territoire de Mwenga dans le haut plateau avec la rivière Bidjombo. Cette chefferie est traversée par une dizaine de cours d'eau entre Kawizi et Makobola, un potentiel hydrographique riche, mais non encore exploité dans un environnement où l'eau potable est une denrée rare, à côté des eaux du lac considérées comme les vibrions des choléra. Si la pêche était considérée comme une activité principale du peuple Vira, aujourd'hui cette communauté s'est tournée vers d'autres activités dominantes, dont l'agriculture, l'élevage ainsi que le petit commerce. Quant à son sous-sol, des informations font état de l'existence du minerai d'or exploité clandestinement dans le groupement de Bidjombo. Cette région enclavée ne possède aucune route de desserte agricole pour approvisionner le centre urbain d'Uvira des denrées alimentaires comme le haricot, le maïs et la viande des bœufs. Avec 7 groupements et 86 villages, avec 7 tribus dominantes et 52 clans attachés à la cour royale, dans une succession de 13 différentes autorités coutumières depuis sa création au XVIIe siècle à nos jours, la chefferie de Bavira a besoin de trouver sa place dans les concerts provincial, national et sous-régional. C'est dans ce cadre que le comité des jeunes Bavira envisage organiser au mois d'août prochain un congrès qui pourrait permettre une réflexion profonde sur son développement. Signalons que cette chefferie est dirigée depuis le 20 décembre 1997 par le grand chef coutumier Lengue Logeleza III Edmond. Son siège est situé à Kabindula.
Merci Fiston Ngoma, mais vous restez avec nous tout au long de cette émission. Se reconnaître Mouvira, il faut de naissance appartenir à une des cinquantaines des clans fondateurs de la tribu. Et c'est la lignée du père qui détermine l'appartenance à la tribu. Mais tout compte fait, c'est à la mère qu'est confiée l'éducation des enfants et surtout de la jeune fille. Comment se déroulent les fiançailles et le mariage chez les Bavira? Quelles sont leurs habitudes alimentaires? Fiston Ngoma a rencontré Madame Aimé Ramazani Kiyoussi, qui milite pour la protection de sa culture.
Avant, les fiançailles ne se faisaient pas face à face entre la fille et les garçons. La plupart des fois, c'était les parents eux-mêmes qui, peut-être les parents du garçon, en passant, peuvent estimer la fille d'un tel voisin. Bon, ce n'est pas directement le papa qui le disait, il peut le dire avec son ami, peut-être se rencontrer autour d'un verre, ou bien c'était une calebasse de bière locale qu'on appelait la bière de banane, bien alcoolisée là. Chez nous, on l'appelait Mugomba. Alors, autour de ça, ils peuvent se partager des nouvelles et ils se disent, voilà, moi je voudrais que mon garçon prenne ta fille en mariage. À ce moment-là, le papa viendra, il ne dira pas à la fille, mais il va le dire à sa maman, disons la grand-mère de la fille. Pour que peut-être quand ils se rencontraient dans les temps passés, les soirs, pour faire des comptes ou pour quelques conseils, alors c'est à ce moment-là que la grand-mère pourra commencer à introduire le sujet à la fille, à lui dire que voilà, il y a telle famille qui a déjà des regards sur toi, voilà. La grand-mère à ce moment-là qui va commencer à préparer la fille. La fille ne devrait pas voir les fiancés à moi. Si la fille les rencontrait en chemin, ils devaient prendre une autre route. Il n'y avait pas de fréquentation.
Quels sont les objets qui représentent la dot? Dans la culture vira, c'est comment?
Bon, en principe, la dot avait un processus, parce qu'il y avait des étapes pour faire la dot. La première étape pour se faire connaître d'abord à la famille, on amenait une cruche, la bière que je vous ai dit, la bière de banane fermentée, et on amenait aussi des quartiers, des chèvres, surtout ce sont les pattes postérieures qui n'étaient pas séparées. Après ça, il y avait l'étape maintenant de venir maintenant verser la dot, hein, Ngondo. Donc, il y avait trois chèvres qu'on amenait comme dot. La première chèvre devrait appartenir à la mère de la fille. L'autre chèvre, c'était pour servir les convives qui seront là pour la dot. Et l'autre, sera la chèvre qui servira à accompagner, disons, on l'appelait Mbene Ngoni. Donc, pour dire que c'est la chèvre qui accompagne la dot et la délégation qui arrive. Et pour d'autres, on demandait naturellement un filet de pêche et une pirogue de pêche. C'était ça la grande valeur de la fille. Parce que, de par l'activité du papa, qui était considéré comme pêcheur, il y a des fois aussi on demandait une espèce de poisson qu'on appelle Kabego. Mais pour l'instant, ce poisson est devenu très rare. C'est une espèce de poisson avec une petite tête comme ça, mais gros. Pour les trouver maintenant, c'est difficile. À l'approche des mariages, pour venir demander maintenant qu'on se précise sur les jours de l'union, on devrait amener des houx. Et on amener aussi la bière traditionnelle, des bananes. Et cette bière devrait servir à asperger la fille au moment d'aller. Et à ce moment-là, si on était arrivé à cette étape-là, la fille ne devrait plus quitter sa famille pour aller n'importe où, sans qu'il est autorisé. Quand on a déjà versé la dot, donc elle appartient déjà à quelqu'un d'autre, elle ne devait plus s'autoriser de bouger de sa famille ou aller quelque part sans que ça soit vraiment dans une nécessité ou qu'il soit autorisé par la famille du mari. Des fois, si on préparait le mariage, on refusait même à la fille de faire quelque chose. Elle ne peut plus aller au champ, elle ne peut plus toucher des choses qui sont avec des lames tranchantes, parce que sinon, elle peut se blesser. À ce moment-là, on ne peut pas amener à un mariage quelqu'un qui a une blessure. Une condition, elle devrait être une fille encore vierge. Ça, c'est le bavir. Elle devrait d'abord être une fille vierge. Parce qu'on devrait l'amener avec une cérémonie. Donc, pour qu'on fasse le paquet de la fille qui part, qui est vierge, il y a une façon de le faire. On faisait une pâte, donc le bougali, avec le foufou, avec une pâte bien préparée de chèvre. Cette nourriture servait à être mangée au petit matin pour annoncer sa virginité. Au cas où on amenait ces paquets, et si on n'arrivait pas à les manger, donc la fille n'était pas vierge.
Pour un mouvir, un vrai mouvir, quel est le repas préféré?
Le repas préféré du mouvir, je vous dis, c'est d'abord c'est les poissons. D'abord, les poissons qui font la grande partie du mets du mouvir. Et ces poissons, les poissons du lac, a sa façon de les faire. Et la cuisson se fait en bouillon, pas trop d'huile. La consommation du mouvir se fait en bouillon, soit aussi, si ce n'est pas en bouillon, ça s'est fait par kuchoma. C'est ça, la base. C'est le mouvira, c'est le poisson grillé qui fait vraiment le vif de son mets.
On mange avec quoi?
On mange avec le bougal. Bien que les manioc commencent à se faire rares, mais c'était la farine de manioc qui faisait la base. Après, maintenant, depuis qu'il y a eu la crise même alimentaire partout, on a commencé même à s'habituer à consommer la farine de maïs, comme tout le monde. C'est ça, les bases. Les autres mets, comme les haricots, les bananes, font partie comme on pourrait dire, des aliments qu'on peut amener, des accompagnements. Mais sinon, la base de l'alimentation des mouvira, c'est le foufou de manioc, et aux poissons, que ce soit les poissons grillés ou les poissons cuits en bouillon. Chacun se reconnaît selon ses valeurs. Si elle veut s'appeler Mouvira, qu'elle garde ses valeurs, elle soit fière d'être appelée Mouvira, comme moi je le suis.
Peut-être par rapport aux tenues vestimentaires aujourd'hui, peut-être avec ce mixage des cultures ici à Ouvira, est-ce qu'il y a un mot à placer par rapport à votre culture sur les règles vestimentaires?
Bon, le problème actuel par rapport à la modernisation qu'on veut amener maintenant et à la mondialisation. Le Mouvira peut s'habiller de beaucoup de manières, mais d'une façon décente. Et cela ne fait pas que qu'on change, qu'on ne soit plus Mouvira. Welangwe kinyumba buluri ni mwetu momuno. Pour dire, quelle que soit la petitesse qu'on soit ou la pauvreté qu'on peut avoir, si on se reconnaît de telle maison ou de telle nature, de telle culture, qu'on reste dans cette même culture. Restons modestes, disons, c'est ça. Welangwe kinyumba buluri ni mwetu momuno. Et la modestie, c'est la meilleure valeur qu'on peut estimer à tout le monde pour bien vivre et vivre mieux. Mouvira est très pacifique parce que dans sa danse lui-même, quand il exhibe sa danse, il est en train de hocher les épaules et de battre les mains tout autour des poitrines. Ça, c'est pour dire que là, il veut la paix. Moi, j'ai grandi à ville. Je suis né en ville, j'ai grandi à ville, mais j'ai eu la chance quand même de m'attacher à ma culture. Même si je suis en ville, je n'ai pas vraiment lâché ma culture.
Qui vous a transmis ces valeurs culturelles en famille?
Mes parents, ma mère, mon papa et tous ceux qui m'entouraient. Et moi-même, je me suis donné vraiment moi, le courage de rechercher parmi les valeurs de ma culture et de les garder.
Merci de rester à l'écoute de cette émission. Est aujourd'hui à la croisée des chemins entre le modernisme et la tradition. Pour faire face au mixage avec les autres cultures dans la cité d'Ouvira, il a été créé le cercle culturel dénommé Sécuvira. Fiston Goma a rencontré deux personnalités de cette association culturelle. Il s'agit de Mouchakouloa Waziri, directeur de Sécuvira, et Jean-Claude Kabiona, directeur honoraire.
Nous nous retrouvons aujourd'hui au bureau du cercle culturel Vira, Sécuvira, ici à Ouvira. Devant nous, Jean-Claude Kabiona, vous êtes directeur honoraire du Sécuvira. Nous avons aussi à notre gauche le président actuel du Sécuvira. Bonjour,
monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Mouchakoula Waziri.
Comment se fait l'initiation des jeunes chez les Bavira?
Bon, par rapport à l'initiation, je pense que nous devons préciser certaines choses. Il y avait l'initiation des femmes et l'initiation des hommes. Et pour les hommes, ça se faisait par ce qu'on appelait yando. C'est ce qu'on fait chez le Warega.
Yando, en quelque sorte, la circoncision.
La circoncision, hein. Alors, cette circoncision se faisait, hein, on isolait les jeunes gens en dehors du village. Et là, on pouvait les initier à travers, disons, plusieurs thèmes qui sont prévus. Mais pour le moment, depuis qu'on a mis fin à cette pratique, l'initiation se fait comment? Aujourd'hui, c'est la raison même de la création de ce qui vira. C'est à travers, par exemple, les chansons tradies modernes que livre notre coordination Tanganyika Musica, mais aussi les ballets culturels Makina Kalazi. Alors, à travers ces chansons, les chansons véhiculent le valeur culturel vira. Et là, les parents, lorsqu'ils expliquent à leurs enfants les contenus de ces chansons, la génération actuelle essaie de tirer les leçons ou les éléments essentiels de leur culture.
On voudrait savoir qui est responsable de cette transmission des valeurs culturelles. C'est la maman, c'est le papa, c'est la communauté, c'est ce qui vira aujourd'hui. Ça se fait comment, Kabiona?
C'est tout le monde. Chacun sa part de responsabilité. Ce qui vira en tant que structure de pensée culturelle les fait à son niveau. Au niveau des familles, le père peut les faire. Dans l'ancien temps, les Yandola, c'était une école de vie. Le jeune qui venait de Yando, il était prêt pour embrasser n'importe quelle vie. Parce que le temps qu'il passait au Yando lui permettait de grandir.
Il passait combien de temps là-bas?
Juste un mois. Je crois un mois. Et là, il était isolé. C'est un lieu qui n'était pas visé par les femmes. Les hommes seuls étaient isolés là-bas.
C'est-à-dire, pour ceux de Makobola, on isolait les jeunes quelque part. Dans les montagnes, aux environs du village. Et on sait que dès qu'ils reviennent de là, ce sont des personnes matures qui peuvent affronter toutes les difficultés de la vie. Pour les hommes, on les apprenait, par exemple, à faire l'agriculture, à pêcher, comment on doit pêcher, mais aussi comment on peut garder une femme, comment on doit être un homme responsable d'un ménage, comment on doit vivre avec les autres qui ne sont pas le Bavira, comment on doit vivre en famille, ainsi de suite.
C'est-à-dire, Yando était une étape, un moment, pour préparer le jeune garçon à pouvoir bien se comporter dans sa vie. Il y a également, l'univers c'est une personne de la paix. Même la culture liée à la paix était apprise là-bas. La Mouvira aime tout le monde, la Mouvira aime la paix, la cohabitation pacifique.
En principe, chez les Bavira, on se marie pour la vie. C'est la raison pour laquelle, quand bien même la loi l'interdit aujourd'hui, dès qu'un garçon engrosse une fille, la famille venait lui dire non, c'est directement la femme de ta vie et on dotait. Malheureusement, actuellement, on peut trouver qu'il y a des divorces à cause du modernisme, hein, mais en tout cas, la culture vira protéger ça. On prêchait la fidélité, que les couples, dès que vous vous mettez ensemble, c'est pour la vie. Mais là aussi, l'homme pouvait être polygame, parce que dans notre culture, cela était, la polygamie était permise. Aussi, ça me fait rappeler ce qu'on dit toujours, Kashufuli kuyaja mitavi mlemo wakwele. C'est un proverbe qui dit que la liane étend ses branches grâce au tuteur. Parce que vous voyez, la liane ne peut pas se lever si cette liane n'a pas de tuteur. Mm. C'est pour dire que le Bavira ont travaillé, malgré les difficultés, malgré la fermeture de cette initiation qui se faisait dans la forêt, nous avons pu quand même garder toujours notre culture en créant d'autres canaux de valorisation de la culture. C'est entre autres le Sécuvira. Msi manem keke, yaho manem buga, Agaregela, pour dire que le foufou de manioc avec le moukéké, le messier Mouvira sera très joyeux quand il arrive chez vous et que vous l'accueillez, vous lui donnez ça. Mais n'oubliez pas aussi de lui donner un peu de la bière. Hein. Mais notre bière à ce moment-là, c'est le Locasix Mugomba. Je sais un endroit ici à côté de nous, vers le sud, après Makobola, là, Bangwe, à Bangwe. Si tu n'es pas de ce milieu, même si tu vas pêcher là-bas, tu ne peux pas avoir de poissons, les gros poissons, le capitaine, ne peuvent pêcher ce poisson que les natifs de ce milieu. Ces pratiques existent. Ils vous disent, non, si vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas pêcher les poissons capitaines. Et là, on comprend. Dans le temps ancien, hein, la femme qui est dans sa période là ne pouvait pas aller se laver dans le lac Tanganyika. Et les casseroles là qui ont de la fumée, on ne pouvait pas les amener dans le lac. Mais aller aujourd'hui dans le lac et voir ce qui se fait là-bas. On commence à transporter même les femmes dans le lac. Et les autres nous diront que c'est le genre. Moi je me demande, est-ce que le genre veut dire ça? Non. Ça dit qu'il y a des valeurs culturelles que nous pouvons toujours garder, tout en laissant que la femme et l'homme jouent leur rôle.
C'est vrai, les gens prient, la région est arrivée, mais elle nous a amené à couper brutalement, à rompre avec la coutume. Alors que c'est un processus. Nous devrions y aller de manière progressive. Donc, avec ça, cela fait que nous ne soyons ni chrétiens et ni coutumiers. Nous sommes à cheval entre les deux.
Après cette balade à Uvira, nous recevons à présent le professeur Augustin Ramazani. Il est de la communauté Bavira, auteur de plusieurs ouvrages et vient de publier un ouvrage intitulé « Les Bavira du Sud Kivu, histoire, culture et renaissance d'un peuple bantou ». Il a été joint au téléphone par Hervé Voka.
L'invité. Bonjour Monsieur Augustin Ramazani.
Bonjour, oui.
Qu'est-ce que vous appelez renaissance sur le plan culturel ?
La renaissance, ce n'est pas un concept nouveau, oui. La renaissance, c'est d'abord la prise de conscience historique que nous avons une culture et que nous pouvons nous appuyer sur notre culture pour d'abord révaloriser cette culture, que nous pouvons vivre de notre culture. On ne peut penser développement sans sa propre culture.
Mais quels sont les éléments de la culture Vira qui ont disparu et que vous pensez nécessaire de faire revivre?
Bon, disons, il y a plusieurs éléments de la culture Vira qui ont disparu, mais je peux seulement prendre un élément concret, important. Chez moi, il y avait ce qu'on appelle les Lubunga. Les Lubunga, c'était effectivement dans les villages, les personnes adultes pouvaient se retrouver dans une hutte, et dans cette hutte-là, ils pouvaient résoudre tous les problèmes, ils pouvaient effectivement conseiller des gens, réconcilier les gens, ils pouvaient aussi se retrouver pour ne fût-ce que manger ensemble. C'était le lieu de la communion du village. Mais c'était aussi un lieu politique, c'est là où on résolvait tous les problèmes du village. Mais ce Lubunga aujourd'hui a disparu. Mais il y a possibilité de moderniser ce Lubunga-là, de remettre cela en place. Donc, le Lubunga, pour moi, c'est le lieu même de la participation à la vie politique d'un pays. C'est le lieu même de la démocratie, à la base. D'être en contact avec les gens, leur demander leurs problèmes, essayer d'apporter des résolutions à leurs problèmes, essayer effectivement de vivre dans la fraternité et la communion, à la base, dans le village. Ce n'est pas de passer ça.
Non,
c'est encore moderniser cela. Bien sûr, ça ne sera pas avec les hits.
Comme un lieu de la prise de grandes décisions, c'est cela?
Voilà. Des grandes décisions du village ou dans un village donné. Il suffit de moderniser cela. Moi, je vois cela, par exemple, on peut créer au sein du village une belle maison, construire une belle maison, et ça devient effectivement un lieu où les grandes personnalités du village se retrouvent pour résoudre leurs problèmes. C'est ça, les Lubunga. Et c'est une valeur pour nous.
Le premier chapitre de cet ouvrage, c'est « De l'identité à l'altérité ». Les Bavira face à la reconstitution de leur identité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par « identité de Bavira » ?
L'identité chez un peuple, c'est ce qui fait la différence dans ce peuple-là par rapport aux autres. L'identité, ce n'est pas l'exclusion des autres. L'identité, ce n'est pas effectivement écarter les autres et vivre soi-même. L'identité, c'est d'abord ce qui me caractérise, moi, vous vivre par rapport à quelqu'un d'autre. Mais aussi, il n'y a pas identité sans altérité. C'est-à-dire que moi, je prends conscience que je suis moi-même, je reconnais ce qui fait ma différence par rapport aux autres, mais j'ai besoin des autres pour pouvoir vivre. J'ai besoin des autres pour pouvoir se développer.
Comme chez tous les peuples, les Bavira sont aussi des interdits ou des tabous. Et vous en appelez à une conscience morale. Et expliquez-nous.
On a dit que chez les Bavira, il y avait des interdits qu'on appelle les visi-là.
Oui. OK.
Alors, ces interdits-là, c'était considéré comme la loi morale au sein d'un peuple, mmh. au sein des Bavires. Et il fallait respecter ces interdits-là. C'est lui qui allait à la cour des interdits-là, et les interdits avaient des conséquences. Ça pouvait effectivement conduire à des maladies, ça pouvait conduire à la mort, parce qu'effectivement, le fait qu'on n'a pas respecté les interdits. Et aujourd'hui, il y a effectivement certains interdits qui sont caduques, mais il y a d'autres qu'on peut encore mettre en valeur, qu'on peut encore respecter. C'est comme par exemple, si je peux donner un exemple concret, par exemple, les interdits liés au sexe sont encore pertinents aujourd'hui. Parce que dans les villages, il y a respect de la femme de l'autre, femme d'autrui. Vous ne pouvez pas effectivement se livrer à la conquête de la femme de l'autre sans qu'il y ait effectivement des conséquences. Si vous voulez avoir une femme, vous n'avez qu'à aller à la conquête de votre femme aussi. Il y avait des interdits liés au fait de la naissance. Une femme qui vient d'avoir un enfant, elle ne pouvait pas se livrer aux actes sexuels, même avec son mari, même avec les autres à l'extérieur. Ces interdits-là sont encore pertinents aujourd'hui. On n'a pas besoin, effectivement, de les cacher, on n'a pas besoin de ne pas en vivre. Mm-hmm. C'est encore pertinent aujourd'hui. C'est comme, par exemple, une femme qui vient d'avoir un enfant, elle a besoin d'attendre quelques mois ou un an pour être fécondée. Ça fait partie des interdits. Interdits de reproduction. Pour avoir un autre enfant, il faut mettre du temps. Donc il n'y a plus des interdits dans nos villages, mmh. chez les Bavira, qui valent la peine même aujourd'hui d'être respectés.
Et du Canada où vous vivez, comment contribuez-vous à la promotion de cette culture?
Ici au Canada, nous avons quelques familles Bavira. Oui. La première contribution, c'est penser et publier sur le Bavira pour que non seulement le Bavira et les Bantois général et même d'autres chercheurs qui veulent effectivement s'enrichir de la culture Bavira puissent effectivement exploiter nos ouvrages. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des familles Bavira ici au Canada, et la préoccupation pour moi, c'est que leurs enfants doivent aussi commencer à apprendre les Kivira. Par exemple, ici chez moi, nos enfants, ici, nous avons commencé à leur apprendre les Kivira, leur langue. Chaque langue est porteuse d'une culture de chaque peuple.
Okay.
Et puis, une troisième chose, c'est que la culture se transmet facilement de bouche à oreille. Alors, nous devons effectivement, nos enfants étant loin de chez eux, étant loin du Congo, nous devons apprendre à nos enfants, de bouche à oreille, leur culture, même si nous sommes effectivement loin de notre pays.
C'est la fin de cette émission Identité culturelle. Merci à Jean-Marc Matouak pour la coordination, Fiston Goma Mayabala, Hervé Voka pour le reportage, Marcel Mayoyo Fouamba, Julie Ngala, Rosalie Zawadi pour la réalisation, prise de son Pierre Diassinois. À la présentation, Denise Maïmoisi Kisimba. Au revoir et à la prochaine.
Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.